Samedi 5 janvier 2019. Une famille digne du ciel et de la terre. La canonisation des parents Martin conforte celles et ceux qui, vivant mariés et dans le monde, aspirent à Dieu. Elle confirme ce que le pape Jean-Paul II soulignait dès 1994 dans sa lettre aux familles. Le Concile a rappelé que la sainteté est la vocation universelle des baptisés. À notre époque, comme dans le passé, il ne manque pas de témoins de l'évangile de la famille, même s'ils ne sont pas connus ou s'ils n'ont pas été canonisés par l'Église. Élever Zélie et lui sur l'autel revient de la sorte à entériner que le couple et la famille, malgré les limites qui sont les leurs et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ne sont pas moins des formes incarnées de la bonne nouvelle. Le bon Dieu m'a donné un père et une mère dignes du ciel que de la terre, écrit Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus à l'abbé Bédière. Thérèse, âgée de 24 ans, n'a plus que 2 mois à vivre avant que la tuberculose ne l'emporte. D'où lui vient une telle vision de ses parents? Elle prend soin de le préciser. De ce qu'ils demandèrent au Seigneur de leur donner beaucoup d'enfants et de les prendre pour lui, de ce que ce désir fut exaucé. 4 enfants s'envolèrent pour le ciel et les 5 autres prirent Jésus pour leur époux. Zélie et Louis Martin ont scellé leur amour le 12 juillet 1858 à l'hôtel de ville d'Alençon. Au lendemain de leur mariage, les Martins s'installent rue du Pont-Neuf où ils passeront les 13 premières années de leur vie commune. Chacun prend ses repères au regard de la double activité professionnelle du foyer. C'est aussi pour Zélie le temps de la découverte d'un nouveau quartier et d'une nouvelle paroisse, celle de Montsor. Mais c'est surtout le moment où le couple se forme et fonde une famille, des époux qui s'aiment et qui le disent. Dès la première lettre à son frère Isidore installé à Paris qui date de 1863, Zélie dit son admiration pour lui et la joie qu'elle éprouve de l'avoir pour mari. Je suis très heureuse avec lui. Il me rend la vie bien douce. C'est un saint homme que mon mari. J'en désire un pareil à toutes les femmes. Voilà le souhait que je leur fais pour la nouvelle année. C'est vrai que Zélie n'avait pas eu une enfance facile. Une lettre à son frère datée du 7 novembre 1865 fait l'aveu d'une existence morne. Mon enfance et ma jeunesse ont été tristes comme un linceul. Car si ma mère te gâtait, pour moi, tu le sais, elle était trop sévère. Elle, pourtant si bonne, ne savait pas me prendre. Aussi, j'ai beaucoup souffert de cœur. Mais la vérité semble plus sombre encore que le souvenir qu'en gardera sa fille. Bien qu'elle en brûlât d'envie, jamais, dans son enfance, Zélie n'eut de poupée, même la plus petite, témoigneront ses enfants. Les fréquentes migraines dont elle souffrait ajoutaient à ce climat pénible. C'est dire la tristesse de son enfance. Mais dans son couple, elle sait reconnaître la bonté de lui et aussi sa foi dont elle admire la cohérence, que ce soit pour son respect du dimanche que pour son attention aux plus pauvres. Ces 2 thèmes reviendront fréquemment sous la plume de la jeune épouse. Zélie est solidaire de son mari lorsqu'il s'agit de faire comprendre aux enfants sa position. Mais ce désir de cohérence ne l'empêche pas, lorsque les filles sont plus grandes, de vivre avec elles une certaine complicité. Une identique qualité de sentiment se manifeste dans la première lettre conservée que Louis envoie à sa femme la même année au cours d'un voyage à Paris où il négocie la vente de dentelles. Je ne pourrai arriver à Alençon que lundi. Le temps me paraît long. Il me tarde d'être près de toi. Je vous embrasse tous de tout cœur, en attendant le bonheur de vous être réunis. J'espère que Marie et Pauline sont bien sages. Ton mari est vrai ami qui t'aime pour la vie. Un amour qui fait aimer l'autre plus que l'existence elle-même. En voyage, chez son frère à Lisieux, Zélie écrit à lui. Il me tarde d'être auprès de toi, mon cher Louis. Je t'aime de tout mon cœur. Et je sens encore dédoubler mon affection par la privation que j'éprouve de ta présence. Il me serait impossible de vivre éloigné de toi. Que cela me paraît long. Je t'embrasse comme je t'aime. Nous le disons, en canonisant ensemble un couple, l'Église insiste sur le pas tout seul, mais les uns avec les autres et les uns par les autres, dans une réciprocité où il importe que chacun tienne sa place. Ce qui fait que la famille Martin est un exemple est bien le trio que forment désormais Thérèse et ses parents, lequel constitue un cas rare, mais non pas unique, dans l'histoire de la spiritualité. Mais afin que la sainteté des parents soit connue, il a fallu celle de leur fille. C'est en lisant les manuscrits autobiographiques de Thérèse que beaucoup ont découvert le témoignage de foi de ses parents, ont apprécié Zélie et lui, les ont priés et ont bénéficié de leur intercession. Et c'est en entrant dans la proximité de lui et de Zélie que beaucoup ont mieux compris Thérèse. La foi des époux Martin s'enracine dans l'Eucharistie. Lui et Zélie partagent la peine des autres. À son frère, dont le troisième enfant, Paul, vient de mourir à la naissance, Zélie écrit « Je suis dans la désolation. J'ai le cœur aussi serré que lorsque j'ai perdu mes enfants. Je vous vois tous dans les larmes auprès de ce cher petit être mort dans des conditions si fâcheuses. Louis a été très sensible à ta peine et en parle sans cesse. Nous repassons dans notre mémoire toutes les souffrances et tous les ennuis que ta pauvre femme a dû subir depuis 6 mois. Et nous gémissons sur le triste dénouement. Oui, cela est bien dur. » La source de cette compassion n'est autre que l'Eucharistie quasi quotidienne à laquelle Louis et Zélie participent ensemble à l'église de Monceau. De ces grâces reçues, l'une des lettres de Zélie porte témoignage. Tandis qu'elle attend Céline, voici que l'angoisse la saisit. Pensant au sort néfaste qu'ont connu ces deux garçons morts en bas âge, elle reçoit la force de s'en remettre à Dieu. Ce matin, pendant la messe, j'avais des idées si noires à ce propos que j'en étais toute bouleversée. Le mieux est de remettre toutes choses entre les mains du bon Dieu et d'attendre les événements dans le calme et l'abandon à sa volonté. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. J'ai l'habitude d'aller à la messe de 5h30, écrit encore Zélie à Marie et Pauline. Mais s'ils choisissent un tel moment, précisent les enfants, c'est parce qu'ils y retrouvent les ouvriers qui se rendent au travail. Dans cette rencontre avec un milieu social qui n'est pas le leur, se vit aussi leur communion. Elle prépare ou prolonge la réception de l'hostie consacrée qu'ils souhaitent la plus fréquente possible, 4 à 5 fois par semaine, selon Mère Agnès de Jésus, ce qui est exceptionnel à l'époque. Cet attachement à l'Eucharistie s'accompagne de ce fait d'une pratique très régulière du sacrement de la confession auquel les parents Martin initient de bonne heure leurs enfants. Pour Léonie, sa mère la prépare elle-même aux 2 sacrements qu'elle reçoit à 12 ans, le 23 mai 1875, lors de la fête de la Sainte Trinité à Notre-Dame d'Alençon. Et le dimanche, c'est en famille que les Martins participent à la messe. Ainsi, au sujet de Thérèse, âgée de 2 ans. La petite Thérèse va toujours bien. Elle a une mine de prospérité, crie sa mère. Elle sait déjà prier le bon Dieu. Tous les dimanches, elle va à une partie des vêpres. Et si par malheur, on omettait de l'y conduire, Elle pleurerait sans se consoler. Et c'est ainsi qu'un jour, à 2 ans, elle a ouvert elle-même la porte de la maison et s'est sauvée sous l'eau qui tombait à torrents dans la direction de l'église. On a couru après elle pour la faire rentrer et ses sanglots ont duré une bonne heure. La dévotion profonde au Saint-Sacrement qui anime les Martins explique la participation de lui à l'association de l'adoration nocturne dans l'église Notre-Dame d'Alençon. Pris dans le courant de cette spiritualité eucharistique, lui rejoint les hommes qui assurent les processions de la Fête-Dieu et du Sacré-Cœur. Il accompagne le prêtre qui porte le viatique aux malades. Sainte Thérèse dira de lui « Le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà, un amour vraiment maternel. » Associés désormais au destin de leur fille, ils le poursuivent à leur tour de manière posthume. Fait éminent, les époux Martin n'ont pas fondé de grandes œuvres, hormis une famille et une entreprise. Ils n'ont eu ni apparition ni révélation, si ce n'est le sens que la foi projette peu à peu sur la vie. Des gens ordinaires, tellement ordinaires que les choses auraient pu en rester là comme pour beaucoup. Tant sont rares ceux qui, dans la sainteté, se font un nom. Et tant est grande aussi la foule anonyme de tous les saints. Ils ont cherché à répondre au mieux à l'appel du Seigneur, apprenant à le suivre, non dans la vie religieuse, comme ils l'avaient d'abord pensé, mais dans le monde. Ils ont découvert peu à peu ce qu'être chrétien veut dire, le recevant de leurs amis, de leur communauté paroissiale, tout autant que le puisant dans l'oraison, l'écoute de la parole et la pratique des sacrements. Accueillant à la vie, ils ont eu la joie d'engendrer 9 enfants, et la douleur d'en perdre 4. Les ayant mis au monde, ils ont su également les remettre à Dieu. S'efforçant de tenir ensemble cadre familial et cadre professionnel, prière et engagement, à travers leur vie personnelle et leur vie sociale, ils ont discerné peu à peu les traits de ce Dieu qui exerçait sur eux un profond attrait. Puis, comme pour beaucoup, par l'expérience d'un cancer pour l'un, d'un éclair cérébral pour l'autre, est venu le moment de mûrir sur un chemin d'abandon et de quitter cette terre sans toujours voir encore le sens de son séjour, au mieux le pressentant. Le 26 mars 1994, le pape Jean-Paul II proclame les vertus héroïques de Louis et de Zélie, c'est-à-dire reconnaît la valeur évangélique de leur vie et de leur témoignage. À la suite de prières adressées par l'intercession des parents Martins, la guérison le 29 juin 2002 à Monza en Italie de Pietro Schillero, un bébé âgé d'un mois, alors que son état était jugé désespéré, rend possible la béatification de lui et Zélie le 19 octobre 2008. La guérison tout aussi inespérée de Carmen Pérez Ponce à Valence en Espagne le 2 janvier 2009 ouvre la voie de leur canonisation, commence alors une nouvelle étape de leur vie posthume. Les intentions recueillies à Alençon, à Lisieux et dans bien d'autres lieux à travers le monde montrent qu'on se confie à lui et Zélie Martin dans les multiples circonstances qu'ils ont eux-mêmes connues. Jeunes, à la recherche de leur vocation ou d'un sens à leur existence. Couples qui les invoquent dans leur vie conjugale ou familiale, sans oublier toutes celles et tous ceux qui, à un moment, affrontent pour eux-mêmes ou pour l'un des leurs la maladie, etc. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Psaume 89, 2. J'espère que vous avez passé un bon moment avec la famille Martin. Heureuse et sainte année à vous tous, Noéline Fournier.